Africa, le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition du journal des auditeurs, l'émission Vous avez la parole sur Africa Radio. Ce mardi, dans le JDA, on fait le point sur la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers en France. Alors pas tous les étudiants étrangers, principalement les étudiants extra-européens, bien que le Conseil constitutionnel ait en partie donné raison aux étudiants qui protestaient, la mesure a été appliquée par cette université à la rentrée. Alors que pensez-vous de cette mesure? Pénalise-t-elle principalement les étudiants africains? Nous en parlerons dans quelques instants avec Modibo Massaké, l'un des étudiants mobilisés. Pour nous faire part de vos commentaires, posez vos questions, appelez-nous dès maintenant. Le numéro à composer, que vous soyez à Paris, à Abidjan ou encore à N'Djamena, c'est le 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Mais avant cela, comme de tradition, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour, chers auditeurs de la radio africaine. Ce qu'on appelle aujourd'hui un commandement commun de la région de Grand Lac pour lutter contre les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'une telle initiative est très grave et vraiment, ça va mettre en péril la souveraineté de la République démocratique du Congo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous revenons sur le même scénario qu'à l'époque de Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, le défunt Laurent Désiré Kabila. Kabila, au lieu de se prendre en charge de créer son propre armée, il n'a fait confiance qu'aux armées étrangères qu'il avait accompagnées au pouvoir. Et entre-temps, il s'est emballé juste sur les honneurs politiques. Et voilà, jusqu'à tel point, c'est les mêmes armées qui assuraient sa sécurité qui l'ont abattu. Et moi, je pense que Félix, aujourd'hui, il marche sur le même chemin.
Bonjour Stéphanie, bonjour Dr. d'Africa Radio, bonjour l'Afrique. Moi, je veux parler un peu de l'annonce de Donald Trump qui a tué le chef des djihadistes là, à Bagdad. Moi, je suis convaincu que ces Américains-là, ce sont eux qui créent des états dans ce monde. Parce qu'à chaque fois, quand ils arrivent proche de leurs élections, ils vont tuer le chef djihadiste, les terroristes. Donc, ça veut dire que ce sont eux qui créent ces monstres qui déstabilisent, qui détruisent ce monde pour leur intérêt. Et ça, c'est pas normal. Là, maintenant, on sait. Moi, il y a une chose très bizarre encore. Ben Laden, quand il est mort, on n'a pas vu son corps. Voilà, son corps a été immergé dans l'eau. Là, lui aussi, son corps est immergé dans l'eau. La raison, c'est quoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il ait une tombe, sinon l'idéologie va continuer à aller se recueillir devant sa tombe pour faire comme si c'était leur, je sais pas, leur dieu et tout. Non, ça, c'est pas ça. Les gens ont besoin de savoir, de voir là où on l'enterre, parce qu'il faut qu'il y ait des preuves. Le corps est là, on le saccage, on l'a vu. Ils ont fait tuer Kadhafi, tous ces autres-là. Et ils ont traîné son corps et pourtant n'était pas un terroriste. Mais combien de fois c'est lui qui a tué sans raison, s'il faut dire. Et voilà, on le protège, on le met dans l'eau, il part. Parce que quoi? On ne veut pas le voir quelque part, sinon... Non, c'est faux. Il faut qu'il nous dise la vérité. Des fois, c'est des histoires qui créent comme ça. Non, on l'a tué. Ils ont tué qui? Et hier, en France, il y a eu encore une attaque à Bayonne. Ça ne finira pas, cette histoire de terrorisme. Tant qu'ils ne vont pas laisser les gens libres, tant qu'ils ne feront pas les recherches des autres tranquilles, il va toujours avoir ce terrorisme et le monde ne sera jamais tranquille. Clair et net. William, au revoir.
Oui, bonjour, amis auditeurs de African Radio. J'appelle à propos de notre artiste international, M. Alpha Blondy. Alpha Blondy, je pense qu'il délire un peu, quoi. D'un coup, il accuse de Babo de quelqu'un qui perd la tête. Un coup, voilà. Alpha Blondy, faites comme Bob Marley. Bob Marley a réconcilié la Jamaïque. Il a réconcilié son peuple avec sa musique. Il a mis tout le monde au diapason. Faites comme M. Bob Marley. Vous êtes très intelligent, Alpha Blondy. quelqu'un qui écrit déjà des chansons, c'est que la personne est très intelligente. Mais vous êtes intelligente dans l'autre sens. C'est dommage, quoi. On n'arrive pas à avancer. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Faites-le dans des bonnes conditions intelligentes.
Bonjour Africa Radio. Bonjour Stéphanie, c'est Gabi. Je vais parler aujourd'hui vraiment dans mon pays, Mali. Je vais parler aujourd'hui vraiment la justice. Je félicite vraiment la justice malienne. Aujourd'hui, on a trouvé en justice vraiment. Malik Koulibaly, bravo. Clément Dembélé, bravo. Je demande à tous les Maliens, à tous les Maliennes, vraiment, on soutient notre justice actuellement. C'est deux personnes qui sont en train de faire le Mali. Vraiment, je suis vraiment fier d'être Malien. Vraiment, je suis fier aujourd'hui d'être Malien à 100%, vraiment. Je demande à Malik Koulibaly, Clément Dembélé, si vous nettoyez tous les bandits, des voyous, des présidents de République, tous entourage actuellement, il y a 26 qui sont incarcérés. J'espère qu'à la France, tout ce qui a joué avec l'argent des Maliens, vient en France, il y en a autant aussi encore. Il y avait plus de 40 personnes ici qui seront encouillées, appliquées, traduites à la justice au Mali. Pas la France, parce qu'à la France, il y a la clim. Au Mali, il faut qu'ils soient au Mali, il n'y a pas de clim. Merci, ami de Gidia. C'est M. Gabi. Bonne journée.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci beaucoup pour vos messages. Hein. Prenez maintenant la parole en direct en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous faisons le point sur la situation des étudiants étrangers extra-européens en France. Il y a quelques mois, le Premier ministre français, Édouard Philippe, avait annoncé la hausse des frais d'inscription à l'université pour ces étudiants. Désormais, hein, il leur faut débourser 2 770 € pour s'inscrire en licence, contre seulement 170 € pour les Français et les Européens. Alors, seule cette université aurait décidé d'appliquer cette hausse, mais pour les étudiants, le combat continue. Une décision du Conseil constitutionnel est venue les conforter. Vendredi 11 octobre, le Conseil constitutionnel, saisi par des associations étudiantes sur cette question, a consacré le principe de gratuité de l'enseignement supérieur. Alors, quelles seront les conséquences de cette décision et quelle est la situation actuelle des étudiants étrangers? Nous en parlons avec Modibo Massaké. Modibo Massaké, bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Merci d'être avec nous, hein, Modibo. Vous êtes un étudiant et vous êtes engagé aussi contre cette hausse des frais universitaires. Tout d'abord, un point sur cette hausse annoncée. Est-ce qu'elle a été mise en place dans toutes les universités? Puis comment s'est déroulée la rentrée pour les étudiants étrangers et notamment africains? C'est cela qui nous intéresse.
La mesure avait été annoncée en novembre 2018. Donc maintenant, ça va faire un an. On a eu la chance d'être suivi par les universités, parce que la majorité des universités en France ne l'ont pas appliqué, parce qu'il y avait une disposition qui permettait d'accorder des frais d'exonération aux étudiants internationaux. Donc les étudiants étrangers ont bénéficié de ces frais d'exonération. Au total, aujourd'hui, on se retrouve avec 7 universités sur 74 qui l'ont appliqué. Donc sur ce côté-là, la mesure n'a pas eu d'incidence sur les étudiants étrangers. Et ce qui est bien, c'est que les universités étaient vraiment sensibles à la question de l'accueil des étudiants internationaux. Toute la communauté universitaire s'était prononcée contre, donc ça nous donnait un peu plus de légitimité à défendre le principe de l'égalité des chances, mais aussi l'apport des étudiants africains. Parce que majoritairement, les étudiants étrangers qui viennent en France viennent du continent africain, notamment de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Donc ce sont des étudiants qui représentent 48% dans la globalité des étudiants internationaux en France. Donc aujourd'hui...
Allez, je vais vous demander, est-ce à dire finalement que le combat est gagné alors?
Non, le combat n'est pas gagné parce que bien que la décision du Conseil constitutionnel nous réconforte un peu dans la mobilisation, cette décision est un peu ambiguë. Parce qu'il a été affirmé que le système la gratuité de l'enseignement doit s'appliquer à tous les niveaux, que ce soit primaire, secondaire ou même aux études supérieures. Mais néanmoins, le Conseil constitutionnel affirme également que cette gratuité n'empêche pas l'augmentation, à condition que les montants restent modiques. Donc là, tout l'enjeu va être dans la définition de ce qui est modique ou pas. Et maintenant, c'est le Conseil d'État qui doit se prononcer sur ce caractère modique des frais d'inscription.
avoir, hein, si 2770 euros, c'est une somme modique. Restez à l'écoute, Maudit Beaumassac, et on va donner la parole aux auditeurs, hein, qui veulent s'exprimer sur cette question. 33 1 55 07 58 00. Et on va directement du côté du Tchad retrouver Ozana. Ozana, bonjour.
Bonjour à Afrique Radio et bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Ozana. Comment a été perçue cette hausse des frais universitaires dans votre pays, le Tchad?
Moi, je pense, Stéphanie, que c'est tout simplement du racisme. Et la décision du ministre de l'Enseignement supérieur d'augmenter les frais, je pense que cela n'honore pas la France. C'est une façon aussi de renvoyer nos compatriotes qui étudient actuellement en France. Sinon, c'est incompréhensible de prendre de telles décisions. Parce que vu la situation économique de l'Afrique actuelle, les parents ne peuvent pas supporter de la hausse des frais. Donc, je pense tout simplement que c'est une façon de mettre la barrière à nos frères qui étudient là-bas de ne pas pousser très loin leurs études. Et là, moi, j'interpelle surtout le français, le président français Emmanuel Macron, d'essayer de revoir cette décision. Parce que la coopération France-Afrique, on doit nous aider surtout à avancer dans le domaine intellectuel et ne pas mettre des barrières pour nous encore retarder. Je pense que cela n'honore pas la France, lui aussi n'honore pas l'Afrique. Et les Africains sont très mécontents de cette décision. Ça nous énerve, quoi. Donc la France, surtout avec la relation qu'elle a avec l'Afrique, ne doit pas essayer de mettre barrières pour nous empêcher d'évoluer, quoi, dans le domaine de la formation. Donc, je pense qu'on doit revoir cette décision, essayer de réduire les coûts pour nous permettre surtout d'avancer dans nos études, surtout avec la France.
Et est-ce que, Ozana, est-ce que la France fait toujours rêver les étudiants tchadiens?
Oui, justement. Parce que beaucoup de gens ont toujours le rêve d'aller étudier en France. Et avec cette nouvelle, bon, cela fait que nos rêves sont vraiment à se refroidir, quoi. Donc il faut que la France nous aide surtout parce que beaucoup d'Africains pensent toujours aller suivre leur formation surtout supérieure en France. Donc avec cette nouvelle, je pense que c'est un coup dur pour nous. Et je pense que les Français essaient de voir un peu. Et ça va vraiment nous soulager et ça nous permettra d'atteindre, quoi, nos rêves, quoi, avec surtout dans la formation professionnelle en France.
On vous souhaite d'atteindre tous vos rêves, mon cher Ozana, et je suis sûr que vous n'avez pas besoin de la France pour cela, d'ailleurs. Maudibo, vous avez entendu, hein, oui. Ozana, hein, depuis le Tchad, qui nous dit, voilà, lui, il a dit le mot, hein, il dit c'est du racisme. Alors, Édouard Philippe, quand il avait annoncé la mesure, hein, il y a presque un an maintenant, il avait évoqué la nécessité, hein, d'élever le niveau, la sélection, hein, au sein des universités françaises. Est-ce que, pour vous, peut-être réagir à cette accusation de racisme, ou à défaut de racisme, peut-être, est-ce que le gouvernement français a cherché à faire du tri, en tout cas, dans les étudiants, selon vous?
Je pense qu'il y a déjà un tri sélectif dans le choix même des étudiants qui viennent faire des études en France. Si on regarde les procédures de Campus France fait déjà une sélection en fonction des revenus de l'étudiant, mais en fonction des notes. Donc c'est une sélection selon l'élitisme, mais aussi c'est une sélection selon les critères économiques. Arrivé en France, bah, l'université aussi s'aventure à faire ce genre de sélection. Pour nous, je dirais pas que c'est du racisme, mais c'est quand même une discrimination. C'est une discrimination parce qu'on tend à mettre des barrières et des obstacles sur le chemin d'une certaine catégorie d'étudiants qui vient principalement de l'Afrique. Et c'est ce qui est un peu révoltant et dommage. C'est vrai que nos États ont l'air pas de responsabilité, mais l'accueil des étudiants internationaux profite à la fois aux étudiants, à la France, mais aux pays d'origine. Donc il y a plusieurs dimensions à prendre en compte, et en mettant en avant les critères économiques sur les critères éducatifs ou même sur les critères de coopération internationale, je pense qu'il a bien raison, tout à l'heure le monsieur qui parlait il a bien raison, parce que ça n'honore ni la France ni l'Afrique. Et aussi, c'est une conception de l'éducation qui tend à valoriser les plus fortunés. Et donc, ceux qui n'ont pas les moyens, ils seront exclus de l'accès aux études supérieures.
Ozana évoquait peut-être des étudiants qui ont vu leurs frais augmenter. Est-ce qu'on peut préciser quand même, et vous allez sûrement me le confirmer, Modibo, que les étudiants internationaux déjà engagés dans des cursus n'ont pas subi cette hausse, en tout cas. En tout cas, cette hausse ne les concernait pas.
Oui, c'était bon. C'était une stratégie pour le gouvernement de casser la mobilisation. Parce que les étudiants ici, déjà, s'ils savent qu'ils sont concernés par cette augmentation, il faut le rappeler, la mesure a été dite, annoncée en novembre 2018. Elle devrait être appliquée déjà en septembre 2019. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps. Et donc, si vraiment ceux qui sont ici étaient concernés par cette mesure, ça allait créer une grande mobilisation. Donc maintenant, malgré le fait que nous, on n'est pas concernés, on se dit, nos frères qui sont en Afrique, qui veulent faire leurs études en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, on doit les offrir les mêmes conditions que nous, on a eues. Parce que si les montants actuels étaient vraiment appliqués, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants, ils n'allaient pas venir en France. Et venir faire des études ici, c'est quand même un privilège parce qu'on a accès, on va avoir une expérience internationale. Après les études, on a le choix de retourner dans notre pays, de travailler dans notre pays, de développer notre pays avec une expertise qui est poussée. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est la migration étudiante à la fois à la France, aux étudiants, mais aux pays d'origine. Aussi.
Alors justement, Modibo, vous évoquiez tout à l'heure la responsabilité des États africains. Est-ce que s'il y a tant, selon vous, s'il y a tant, c'est peut-être pas le mot, mais vous avez dit parmi les étudiants internationaux, il y a 48% qui viennent du continent africain. Est-ce que s'il y en a tant, c'est parce que notamment les universités, parfois, sur le continent africain, sont de mauvaise qualité, à cause de la mauvaise qualité de l'enseignement supérieur en Afrique?
Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait que les États africains ne sont pas très compétitifs au niveau de l'enseignement supérieur. Rapidement, dans les années 80, il y a eu des politiques d'ajustement supérieur qui ont eu des indigences, des conséquences vraiment négatives sur notre éducation. Donc, nos responsables politiques n'ont vraiment pas mis en place de politiques éducatives qui permettaient aux étudiants africains d'être bien formés sur le territoire africain, même la mobilité des étudiants internationaux, toutes ces choses-là n'ont pas été mises en place à ce jour. Donc aujourd'hui, les seules alternatives que les gens ont, c'est de faire en sorte que leurs enfants puissent avoir une meilleure éducation. Et pour avoir une meilleure éducation, malheureusement, il faut sortir du continent ou sinon il faut aller dans les pays maghrébins où les étudiants africains de l'Afrique subsaharienne sont beaucoup présents aussi. Donc globalement, on a eu beaucoup de facteurs qui ont fait en sorte que nos États n'ont pas travaillé, n'ont pas planifié des projets en faveur de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ce projet-là. Mais comme la France était un pays accessible par rapport aux autres pays dans le classement des pays qui reçoivent plus d'étudiants internationaux, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a l'Australie. Donc la France était le pays le plus accessible. Déjà, il y a le côté de la francophonie, il y a le côté du fait que nous, on a été enseignés avec ce français, on a beaucoup de choses en commun. Donc venir ici, c'était le choix le plus privilégié, en tout cas. Mais avec ce montant-là, la France veut s'aligner sur les autres pays. Donc du coup, en faisant ce choix, ils l'ont dit, leur objectif, c'est d'attirer d'autres profils d'étudiants qui viennent des pays émergents, comme la Chine, comme l'Inde, etc. Donc, ils ne veulent même pas ce côté africain, francophone. Pour eux, c'est déjà chose acquise. Donc, ils n'ont pas besoin de faire de grandes choses pour nous attirer. Donc, voilà. Il y a toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut que nos États se saisissent de cette question pour planifier, ne serait-ce que la mobilité des étudiants africains sur le continent africain.
C'est très clair. Vous nous direz justement, Modibo, peut-être dans quelques instants, s'il y a des initiatives en termes au niveau des États africains pour accroître la mobilité des étudiants. Et vous, chers auditeurs, venez nous dire si la France fait toujours rêver les étudiants africains. 33 1 55 1 07 58 00, notamment si vous êtes du côté d'Abidjan. On retourne au Tchad. Écoutez, Christian. Christian, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Christian. Vous dites c'est à cause de la situation dans nos pays que les étudiants vont ailleurs.
Oui, la situation au pays est intenable. Dans nos universités ici, les frais d'inscription sont augmentés de 25 000 à 50 000 francs. Vous voyez, un étudiant qui n'a pas de bourse, comment il peut continuer ses études? Raison pour laquelle les enfants quittent pour aller étudier ailleurs. Et arrivé là-bas, le frais d'inscription revient encore trop cher. Donc il faut revoir la situation au pays. Nos dirigeants n'ont pas rendu service à ces jeunes. Il faudrait que dans nos pays, les jeunes aient accès à l'éducation supérieure. Et au pays, quand ça ne tient pas, il ne faut pas accuser d'autres, dire que voilà, c'est du racisme. Chaque pays a ses conditions et ses principes. Il ne faudrait pas accuser la France.
Vous vous dites que la France a bien le droit d'augmenter ses frais, si je comprends bien.
Oui, mais ça dépend de la France. La France ne peut pas réduire le frais de ce à toutes les nations. Il faudrait que nos dirigeants négocient maintenant avec la France, comme ils soient dans la même coopération. Il faut aussi négocier pour qu'on puisse réduire les frais d'inscription des étudiants étrangers qui sont en France.
C'est très clair. Merci Christian, merci beaucoup. Alors Modibo, je vais vous lire un petit message. C'est un message de Christian, de William, qui dit « Cette hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers n'a aucune raison d'être à la base, c'est inadmissible. Comment peuvent-ils faire cette différence entre les étudiants français et étudiants migrants ?» nous dit William, hein, en sachant que tous ont fait les mêmes études, ce recours des étudiants devrait aboutir au positif. Sinon, c'est la pire injustice. De surcroît, la majorité de ces étudiants ont des parents pauvres. Un peu de prise de conscience pour les autorités françaises. Modibo, vous avez dit, hein, finalement, maintenant, la balle est du côté du Conseil d'État. Est-ce qu'on sait quand est-ce que le Conseil d'État va rendre une décision et que peut-on attendre du Conseil d'État sur cette décision? Qu'il la retoque, qu'il la considère comme anticonstitutionnelle, c'est ça?
Non, parce que au départ, c'est pas le Conseil d'État qui devrait se prononcer sur la constitutionnalité ou la conformité à la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel avait été saisi pour savoir si cette augmentation n'était pas vraiment de la discrimination. Est-ce que ça ne méconnaissait pas les principes d'égalité, les principes de l'égalité des chances, même la gratuité de l'enseignement. Donc c'était les questions qui avaient été soulevées devant le Conseil d'État. Maintenant, vu la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel en affirmant la gratuité, le Conseil d'État va devoir réexaminer les arguments. Pour le gouvernement, les montants sont modiques parce que, apparemment, les étudiants étrangers payent qu'un tiers du montant réel de leur formation. Ce qui veut dire qu'une licence, ça coûte à peu près 10 000 euros. Mais néanmoins, il n'y a aucune étude sérieuse qui prouve cela. Et en plus de ça, selon les filières, les montants peuvent changer. En sociologie ou en droit, ce n'est pas le même prix de formation. Au-delà de ça, pour nous, étudiants étrangers, les montants sont extrêmement élevés. Ça a été multiplié par 15 du jour au lendemain. Et en même temps, sans qu'on offre des possibilités à ces étudiants-là, parce que la France, comme je l'ai dit, veut s'aligner sur le modèle anglo-saxon, mais sauf que dans le modèle anglo-saxon, les étudiants ont des possibilités de faire des prêts bancaires, les étudiants ont des possibilités de travailler toute l'année, alors qu'ici en France, le statut de l'étudiant étranger est accompagné de plusieurs contraintes. On ne peut pas travailler au-delà de 24 heures par semaine. Donc ça, c'est déjà un frein. Bon, à la fois, ça peut être un frein, mais aussi, ça peut être aussi un avantage, vu que si on travaille beaucoup, on ne sera pas trop présent aussi à l'université. Donc il y a ce danger-là. Mais au-delà du travail des étudiants, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas faire de prêt bancaire, parce qu'on a un titre de séjour qui est limité à un an. Chaque année, on va renouveler à la préfecture. Donc, si les montants sont de 3 000 euros pour un master, voire 4 000 euros, un étudiant qui n'a pas le montant, comment il va s'inscrire? Il ne peut pas travailler à la fois pour gagner de l'argent, s'il ne peut pas faire de prêt bancaire, parce qu'avec un titre de séjour annuel, les banques ne vont pas nous prêter des 5 000 euros, des 4 000 euros, sans avoir les garanties derrière que nous sommes capables de rester longtemps sur le territoire et même que nous avons les fonds nécessaires pour le rembourser. Donc il y a toutes ces dimensions-là qui n'ont pas été analysées du tout par le gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui on se dit que ce montant-là est extrêmement élevé. Donc pour nous, le Conseil d'État, dans le meilleur des cas, va dire au gouvernement de revoir le montant et dans le pire des cas, ils vont peut-être donner raison au gouvernement. Mais si cela est fait, ce sera vraiment une instauration de l'inégalité entre les étudiants internationaux. et aussi, bah, pour moi, le renoncement des principes d'égalité des chances en France. Voilà.
C'est très clair, Modibo. On a bien compris, hein, en plus, que finalement, voilà, comme vous l'avez dit, hein, le gouvernement français veut s'aligner sur le modèle anglo-saxon, mais sans finalement donner de contrepartie. Il nous reste quelques minutes, 33 1 55 07 58 00. On va écouter Thomas et David. Thomas, bonjour. Ah, bonjour Thomas, merci de votre patience. Je ne sais pas si la ligne est très bonne, allez-y. Oh non. On ne vous entend pas, mon cher Thomas. Mon cher Thomas, je vous raccroche et je propose que vous rappeliez. Voilà, on fait comme ça. J'aurais dû le laisser en ligne pendant que je lui disais ça. David, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour David.
Je vois qu'il reste très peu de temps, donc je vais aller...
Ah non, vite. Allez-y, il reste 7 bonnes minutes et...
D'accord. Je crois que, une fois de plus, les Africains, ces défauts s'imposent sur nos responsabilités. Ça me fait un peu penser à l'histoire du franc CFA, où tout le monde est en principe contre, mais personne ne prend l'initiative de sortir de ces systèmes. Et c'est pareil pour l'éducation. On ne peut pas léguer la responsabilité à la France à former nos jeunes. La France est libre de faire le choix de sa politique éducative, quitte à augmenter les frais, même à discriminer. Je crois qu'ils ont ce droit, mais après, bon, ils vont aussi en subir des conséquences d'une certaine manière. Je crois quand même qu'un jeune qui est formé en France, par la suite, s'il est ramené à repartir en Afrique, aura quand même tendance plus à choisir la technologie française. Mais bon, c'est à courte vue.
C'est ce qu'on appelle le soft power, mon cher David, voilà. Finalement. Voilà, bon, en accueillant ses étudiants, la France fait valoir sa culture, hein, son influence.
Voilà, s'ils ont envie de se tirer une balle dans le pied en écartant l'Afrique noire qui ne regorge pas certainement d'étudiants entre guillemets de qualité, c'est leur choix. C'est à nous de répondre à ça. De toute façon, on ne devrait même pas nous intéresser à ce type de politique. C'est à nous de construire des universités. Ne serait-ce que dans des sous-régions en Afrique, on devrait avoir des grands pôles universitaires qui pourraient répondre à la demande. Moi, j'ai fait l'informatique. J'ai toujours été étonné de voir que nous n'avons pas vraiment une forte stratégie comme l'ont fait l'Inde là-dessus. C'est en Afrique que ça doit se décider. Et quelque part, même, c'est salutaire, même, cette politique française. Moi, personnellement, je suis...
Vous dites que ça permet finalement de rompre un peu le lien, c'est ce que vous dites, David, hein.
Ah oui, moi, je suis même pas dans l'optique de rompre le lien. Je pense qu'on a, c'est à nous de définir notre politique de développement et notre politique éducative. Je crois qu'elle est cruciale dans nos choix à venir. Et si on ne la définit pas, on ne peut pas avancer. Je crois que c'est même là le problème. Je crois que la plupart des Africains qui viennent ici finissent souvent... Vraiment, c'est caricatural ce que je vais dire, mais c'est quand même le cas de voir que beaucoup finissent comme vigiles alors qu'ils ont des bacs plus 5, bacs plus 6.
Ouais.
Tout simplement parce que
ça, c'est pas sûr, parce que c'est pas évident d'ailleurs de passer du statut d'étudiant à un statut de travailleur.
Non, parfois ils font des mauvais choix en termes au niveau éducatif, ils font des mauvais choix. Il y a aujourd'hui, vous pouvez voir que la plupart, on les trouve dans certaines filières, mais pas dans d'autres. Et je crois qu'il faut comprendre ça. Et quand on est vraiment formé, moi je peux vous dire, si on est scientifique ou informatique, on n'a aucune difficulté, les papiers s'obtiennent assez facilement. Vous savez, aujourd'hui, actuellement, il y a une pénurie de médecins, de personnes au niveau médical.
C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie, David, c'était ça, concept énoncé par Sarkozy en 2007.
De toute façon, pour résumer, je crois que c'est à l'Afrique de définir sa politique éducative, et de former d'abord ces jeunes. Parce que l'histoire d'envoyer toujours des jeunes en Europe, ça devient très, très difficile.
Vous dites que c'est la répétition du schéma colonial. Bah, à peu près ça?
Oui, même. Oui, mais je pense qu'on ne réfléchit même pas, en fait. On n'y a même jamais pensé. Tout simplement, ça se fait comme ça. Je veux dire, le gamin, il obtient son bac, et on pense tout de suite à l'envoyer en Europe. On ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs. Alors que, localement, il pourrait trouver d'autres formations plus adaptées à l'environnement, voilà.
Merci David. Je vous remercie David parce qu'il reste 3 minutes et puis il y a Patrick qui vient de rejoindre et puis je voudrais donner la parole à Modibo avant de partir.
Allez, bon après-midi à vous.
Merci David. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour. En fait, c'était aussi pour rebondir dans le sens de David là qui vient de passer avant. Allô?
Oui, on vous entend, Patrick.
Oui, donc c'est pas la peine au fait que nous puissions nous plaindre par rapport à l'attitude de la France. C'est-à-dire la France veut s'aligner comme les États-Unis. Vous savez que les étudiants pour aller étudier aux États-Unis, même en Angleterre, ça coûte très, très, très cher. Donc la France ne va pas rester seulement le paillasson de récupérer les pauvres. Donc, quelque part, la sélection, même dans nos pays d'origine, il y a déjà la sélection. Tout à l'heure, l'étudiant qui parlait de la bourse, de l'inscription qui a augmenté de 25 000, de passer de 25 000 à 50 000. 50 000, c'est juste 80 euros. Donc, même les 80 euros qu'on demande dans son pays, ça dépasse déjà les 170 euros qu'on demande ici, ça dépasse déjà largement. Donc, c'est sur place à nos politiques, sur place dans nos pays, de faire des efforts pour nos pays, pour nos étudiants. C'est pas la France. La France, il peut faire ce qu'il veut. La France ne va pas rester tout le temps à assister ceux qui sont en bas de l'échelle. La France aussi veut s'aligner comme les autres pays de l'OCDE, de les pays développés, quoi.
Merci, Patrick, de nous avoir appelés.
Merci.
Bonne journée. Reste à l'écoute, hein, Patrick. On va demander à Modibo une réaction. Modibo, vous avez entendu, hein, Patrick et David, hein, qui disent, bah, finalement, voilà, c'est pas plus mal. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on aille toujours étudier en France.
Oui, bah, je trouve que les arguments de Patrick et de David, c'est pratiquement les mêmes arguments que nos adversaires nous disent. En disant, bon, c'est pas la France de vous former, vous avez des pays indépendants depuis bien longtemps. C'est vrai, mais sauf que actuellement, nous, on est étudiants ici, malgré le fait qu'on ne sera pas impacté par cette augmentation, on pense aussi à des jeunes qui sont en Afrique, qui ont ce rêve de faire leurs études en France. Et pourquoi pas, s'ils viennent ici, une fois qu'ils ont leur diplôme, retourner en Afrique et développer le pays, leur continent. Donc, nous, on a, pour moi, en tout cas, notre position fait en sorte qu'on doit défendre les intérêts des étudiants africains qui veulent venir ici en France. Après, voilà, les arguments sur le fait que nos États doivent planifier des politiques éducatives, je suis totalement d'accord. Moi-même, je suis en sciences de l'éducation, je me suis engagé dans le milieu associatif et même dans le combat des étudiants étrangers parce que je me dis qu'à travers l'éducation, on peut faire quelque chose en Afrique. Sinon, sur le plan politique, sur le plan éducatif, tout est fermé. Maintenant, ce qui nous reste, c'est l'éducation. Donc, au-delà de cette augmentation de flexibilité, nous devons tous réfléchir. Il ne faut pas juste dire, oui, c'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Il faut tous qu'on réfléchisse ensemble pour trouver des solutions, parce que je pense que nos États, ça fait très longtemps qu'ils ont renoncé à planifier des projets éducatifs. Tout simplement, bah, nous, société civile, nous, étudiants, on a beaucoup de choses à apporter. On peut les apporter autrement.
Merci beaucoup, Modibo Massaké. On a bien compris. Hein. On arrive à la fin de cette émission. Hein. N'hésitez pas à continuer le débat sur nos réseaux sociaux. Demain, l'invité sera Pascal Affine-Guessant, candidat à la prochaine élection en Côte d'Ivoire. Si vous souhaitez lui poser des questions, inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur 33 1 55 07 58 05.